Chapitre 8. Toute la journée qui suivit, Hartog fut de mauvaise humeur. « Et qu'as-tu donc, Jacques ?» lui demandait Platonida Ivanovna. « Tu sembles pas dans ton assiette aujourd'hui. On dirait que t'as l'âme en désordre. » La brave vieille traduisait assez bien, dans son langage particulier, l'état moral d'Hartog. Il n'avait pas envie de travailler. D'ailleurs, il ne savait lui-même ce qu'il voulait. Tantôt, il attendait coup de fer. Il se doutait bien que ce dernier avait donné son adresse et personne d'autre n'aurait pu tant parler de lui. Tantôt, il se demandait avec perplexité, est-ce bien de cette manière que devait se terminer notre rencontre ? Il se disait qu'il lui écrirait encore à d'autres moments. Il se demandait si ce n'était pas à lui d'écrire pour tout expliquer. Car il ne désirait tout de même pas laisser une mauvaise impression. Mais que pouvait-il expliquer en ce cas? Il arrivait aussi, sans transition, d'éprouver un sentiment voisin du dégoût pour la démarche importune de cette femme, pour son effronterie. Mais il revoyait ensuite ce visage indiciblement touchant, il entendait sa voix charmeuse. Ou encore, il se souvenait de sa façon de réciter, de chanter, et se demandait s'il avait eu raison de se montrer si sévère, si catégorique dans son jugement. Bref, il avait l'âme en désordre. Enfin, il en eut assez, il décida, comme on dit, de se reprendre et d'en finir une bonne fois avec cette histoire qui, de toute évidence, troublait son travail et dérangeait son repos. Il ne lui fut pas facile de mettre cette résolution en pratique. Plus d'une semaine s'écoula avant qu'il pût rentrer dans son ornière. Par bonheur, Kupfer ne se montra pas. Il semblait avoir disparu de Moscou. Peu avant cette histoire, Hartog s'était intéressé à la peinture qu'il désirait étudier en vue de ses expériences photographiques. Il se remit à cette occupation avec un zèle redoublé. Deux à trois mois s'écoulèrent ainsi, dans une existence calme, sauf quelques rechutes espacées, pour parler comme les médecins, qui se manifestèrent par exemple par la décision qu'il faillit prendre un jour de rendre visite à la princesse. Hartog était revenu l'homme de jadis. Pourtant, au fond de son être, quelque chose de sombre, de lourd, s'agitait discrètement, se mêlant à toutes ses pensées. Il était comme un gros poisson qu'on avait retiré de la rivière, puis rejeté à l'eau, et continué à nager sous l'embarcation où se trouvaient le pêcheur et son hameçon. Et voici qu'un matin, parcourant un numéro du Messager de Moscou, vieux de plusieurs jours déjà, il tomba sur un entrefilet. C'est avec un profond regret, écrivait un correspondant local de Kazan, nous devons signaler la nouvelle du décès subit de Claire Miltich, actrice de talent. Elle était devenue, au cours d'un bref engagement, l'idole de notre public éclairé. Notre douleur est d'autant plus vive que Mademoiselle Miltich, à qui un bel avenir était assuré, a mis volontairement fin à ses jours. Elle s'est empoisonnée. Sa mort a été particulièrement dramatique, car c'est sur la scène même que l'actrice a absorbé le poison. Et à peine fut-elle transportée chez elle, elle expira, à la consternation de tous. Selon des bruits recueillis en ville, c'est un amour malheureux qui l'a conduite à cet acte épouvantable. Hartog posa doucement le journal sur sa table. Extérieurement, il demeura calme, mais il ressentit comme un choc à la tête et à la poitrine, qui de là gagnait tout son corps. Il se leva, resta un moment debout, puis se rassit et relut cette lettre. Ensuite, il se leva encore, alla s'étendre sur son lit, et les bras croisés derrière la tête, fixa longuement comme à travers un brouillard le mur de sa chambre. Peu à peu, le mur s'estomba, se brouilla et s'évanouit finalement. Il revit devant lui le boulevard, le ciel gris, puis elle, vêtue de sa mantille noire, elle lui apparut sur l'estrade. Enfin, il se vit lui-même à côté d'elle. Le choc si violent qu'il avait ressenti au premier moment à la poitrine semblait remonter maintenant vers sa gorge. Il eut envie de tousser, d'appeler quelqu'un, mais la voix lui manqua. Et à sa grande surprise, il fondit en larmes. Et pourquoi pleurait-il? De pitié? De repentir? Était-ce son système nerveux qui cédait sous le coup de cette brusque émotion? Après tout, elle ne fut rien pour lui. N'est-il pas vrai? Qui sait? Cette nouvelle est peut-être inexacte. Cette pensée traversa son esprit comme un éclair. Oh, il faut me renseigner. Mais auprès de qui? De la princesse, oh non, mieux vaut demander à Coupleur ou à Coupefer. Oui, à Coupefer. Mais on le dit absent de Moscou. Oh, c'est égal, il faut tenter de le voir d'abord. Anatole s'habilla en toute hâte, héla un fiacre et se rendit chez Coupefer. Chapitre 9. Il ne s'attendait pas à le trouver, et pourtant il était chez lui. Coupefer avait bien quitté Moscou pendant quelque temps, mais de retour depuis une semaine déjà, il s'apprêtait même à rendre visite à Aratov. Il l'a reçu avec son aménité habituelle et se mit à lui parler de bagatelles diverses. Aratov, impatienté, l'interrompit et demandant « As-tu lu, est-ce vrai ?»« Vrai, quoi donc ?» répondit Kupfer interloqué. « Mais au sujet de Claire Bilitch ?» Le visage de Kupfer eut une expression contrite. « Oui, si fait, mon Dieu, oui. » Elle s'est empoisonnée. Bon, quel malheur. Aratov garda le silence un moment. As-tu aussi appris la nouvelle par le journal? Ou te serais-tu peut-être rendu en personne à Kazan? Demanda-t-il. Oui, c'est exact, j'y suis allé. C'est nous, la princesse et moi, qui l'avons amenée là-bas. Elle a joué au théâtre de cette ville et y a remporté un grand succès. Mais je ne suis pas resté jusqu'à la catastrophe. Je suis parti pour Yaroslav. Pour Yaroslav? Mais oui, j'ai accompagné la princesse. Elle habite maintenant Yaroslav. Et possèdes-tu du moins des renseignements exacts? Tout ce qu'il y a de plus exact. Je tiens de première source. J'ai fait connaissance à Kazan avec sa famille. Mais bon, il me semble que cette nouvelle te trouble fort. Si je me souviens bien, Claire ne t'avait pas plu jadis. Tu avais tort. Quelle fille merveilleuse. Malheureusement, une tête folle, déséquilibrée. Hélas, oh, nous l'avons beaucoup pleuré. Aratov, sans mot dire, se laissa choir sur une chaise et après un instant, pria Kupfer de lui raconter. Il n'acheva pas sa phrase et se troubla. Mais raconter quoi? Sans qui Kupfer? « Mais tout, répondit lentement Aratov. Par exemple, parle-moi de sa famille et de tout le reste. Dis-moi enfin tout ce que tu sais. Cela t'intéresse ou non? Oh, bien volontiers. » Et Kupfer, dont le visage ne reflétait guère la peine qu'il prétendait avoir, se mit à raconter. De son récit, Aratov apprit que Claire Bilitch s'appelait en réalité Catherine Milovidova, que son père avait été maître de dessin dans une école de Kazan, qu'il peignait de médiocres portraits, des icônes pour les établissements publics, qu'il passait en outre pour un ivrogne et pour un tyran démocratique. Et dire que ce peintre avait des lettres, ajouta Coupefer en riant avec satisfaction, fier du jeu de mots qu'il croyait avoir fait. Aratov apprit également que cet homme laissa en mourant une veuve d'une famille de négociants, femme aussi sotte que les héroïnes des pièces d'Ostrovski, et une autre fille, beaucoup plus âgée que Claire, qui ne lui ressemblait guère. Intelligente d'ailleurs, d'un caractère exalté, maladif, mais intéressante et cultivée, mon vieux. La mère et la fille habitent une maisonnette convenable, acquise sur le produit de la vente des portraits et des icônes. Enfin, Claire, ou si tu veux Catherine, frappait dès son enfance par ses dons naturels. Mais c'était une enfant indocile, capricieuse, se disputant constamment avec son père. Et ayant la passion du théâtre, elle s'enfuit à l'âge de 16 ans de la maison avec une actrice. « Avec un acteur, peut-être ?» interrompit Anatov. « Non, 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 pas un acteur, une actrice, à laquelle elle s'attacha beaucoup. » À vrai dire, cette actrice avait un protecteur, un homme très riche, d'un certain âge déjà, et qu'il n'épousa pas pour l'unique raison qu'il était déjà marié. Il semble d'ailleurs que l'actrice fut mariée également. Ensuite, Kupfer confia à Anatov qu'avant de venir à Moscou, Claire avait déjà chanté et joué sur des scènes de province. Ayant perdu l'actrice, son amie, le protecteur était mort entre-temps ou peut-être avait repris la vie commune avec sa femme, Kupfer ne se souvenait pas très bien de ce détail. Claire fit la connaissance de la princesse, cette femme au cœur d'or que tu n'as pas su, mon cher Jacques, apprécier à sa juste valeur, ajouta le narrateur avec émotion. On avait finalement offert à Claire un engagement pour Kazan. Elle accepta, encore que lui 20 fois assuré auparavant de ne plus vouloir quitter Moscou. En revanche, quelle admiration n'a-t-elle pas suscité chez les habitants de Kazan? Oh, c'en était presque étonnant. À chaque représentation, bouquets et cadeaux, cadeaux et bouquets. Le marchand de blé, le plus gros bonnet de la région, il fut même porté dans sa loge un encrier en or. Et Kupfer raconta des choses avec une grande animation, mais sans témoigner de beaucoup de sentimentalité, et en s'interrompant pour poser toutes sortes de questions à son ami. Mais pourquoi, mon vieux, veux-tu toujours savoir? À quoi bon tout ceci? Peut-il te servir? Anatov dévorait littéralement ses paroles, réclamant toujours de nouveaux détails. Enfin, après avoir, semblait-il, vidé son sac, Kupfer se tut, s'accordant un bon cigare en guise de récompense. « Mais pourquoi donc s'est-elle empoisonnée ?» demanda Anatov. « Les journaux disent... » Kupfer leva les bras au ciel. « Oh, quant à cela, je ne saurais te dire. N'en sais rien. En tout cas, les journaux en ont menti. » Claire avait une conduite exemplaire, irréprochable, pas d'amourette. Comment aurait-elle pu d'ailleurs avec son orgueil? Elle avait un orgueil presque satanique, et avec cela inaccessible. Une tête dure. C'était une impulsive, mais solide comme le roc. Me croiras-tu? Je l'ai connue de près, pourtant bien. Je n'ai jamais vu de larmes dans les yeux. Mais moi, j'en ai vu. Songea Anatov à part soi. Il y a eu ceci toutefois, poursuivit Kupfer. Les derniers temps, j'avais perçu chez elle un grand changement. Elle était devenue triste, taciturne. Pendant des heures entières, on ne parvenait pas à lui arracher un mot. Je la questionnais. Quelqu'un vous aurait-il offensé, Catherine Sévérovna? Car je connaissais bien son caractère. Elle n'était pas femme à supporter un affront. Mais quoi? Pas moyen de lui arracher un mot. Ses succès au théâtre ne l'amusaient plus. Les bouquets pleuvaient, elle ne daignait même pas sourire. Cet encrier d'or, par exemple, elle y jeta à peine un regard distrait, et ce fut tout. Elle se plaignait souvent que personne n'arrivait à créer un rôle pour elle, tel qu'elle le comprenait, et puis elle abandonna complètement le chant. Peut-être ai-je eu tort, mon vieux, je lui ai dit une fois. Que tu trouvais qu'elle manquait un peu d'école. Mais tout de même, pourquoi s'est-elle empoisonnée? C'est inconcevable. Et de quelle façon encore? Quel est le rôle que lui procura son meilleur succès? Anatov voulait en réalité connaître le dernier rôle qu'elle avait joué, mais sans bien savoir pourquoi, il posa sa question à côté. Oh, si je me souviens bien, ce fut Grunia d'Ostrovski. Mais je tiens à le répéter, elle connut point d'amourette. Considère donc un peu les choses toi-même. Elle habitait chez sa mère. Tu les connais, ces maisons de négociants. Dans chaque coin, une petite lampe brûle devant une icône. une chaleur étouffante, une odeur acide, un salon n'ayant pour tout meuble que de chaises rangées le long du mur, des fenêtres encombrées de géraniums. À peine un visiteur met-il les pieds dans ces endroits, là que la maîtresse du logis perd l'esprit, comme devant une invasion ennemie. Allez donc vous ingénier dans cette ambiance à faire la cour ou à parler d'amour. Moi-même, on n'a pas voulu me laisser entrer un jour. Leur domestique, une robuste femme, vêtue d'un sarafan écarlate avec des seins pendants, m'a barré le chemin dans le vestibule en hurlant « Où allez-vous ?» Non, décidément, je comprends point la cause de son suicide. Peut-être en a-t-elle eu assez de la vie tout bonnement, conclut Kupfer avec philosophie. Aratov demeura la tête baissée. « Peux-tu me donner l'adresse de cette maison à Kazan ?» demanda-t-il finalement. « Bien sûr, mais à quoi bon ? Songes-tu peut-être à leur envoyer une lettre ?»« Peut-être. Alors à ton aise en ce cas. » Cependant la vieille ne répondra pas. « Car elle ne sait ni lire ni écrire. » »« Pour la sœur, oh, c'est différent. Oh, elle est intelligente, celle-là. » »« Mais tu m'étonnes, mon vieux. » Tu semblais si indifférent auparavant, et voilà qu'elle t'intéresse tout à coup. Tout cela, mon cher, provient de ta vie solitaire. Aratov ne répondit pas à cette remarque et partit en emportant l'adresse de Kazan. Alors qu'il se rendait chez Kupfer, le trouble, l'étonnement, l'attente, l'anxiété se lisaient sur son visage. Maintenant, il marchait d'un pas calme et régulier, les yeux baissés, le chapeau rabattu sur le front. Mais passant l'examina curieusement, mais il n'y prit pas garde. Ce n'était plus comme sur le boulevard. « Oh, Claire infortunée, oh, Claire folle !» Ce refrain résonnait en lui sans trêve. Chapitre 10. Cependant, Aratov passa fort calmement la journée qui suivit. Il put même s'adonner à ses occupations habituelles. Sur un point, néanmoins, un changement s'était produit. Aussi bien durant ses heures de travail que pendant ses heures de loisirs, il pensait sans arrêt à Claire et à ce que Kupfer lui avait dit la veille. Il est vrai que son esprit n'était pas agité et les réflexions qui lui venaient demeuraient paisibles. Il lui semblait que cette singulière jeune fille l'intéressait d'un point de vue psychologique seulement, comme une énigme en quelque sorte, qu'il valait la peine de s'efforcer de résoudre. Elle s'est enfuie avec une actrice entretenue, songeait-il, et s'est placée sous la protection de cette princesse chez qui elle vivait, semble-t-il. Et avec tout cela, pas d'aventure amoureuse? C'est invraisemblable. Kupfer prétend que c'est de la fierté. Nous savons, premièrement, Aratov aurait dû dire ceci, nous avons lu dans les livres, nous savons que la fierté s'accommode fort bien d'une conduite légère. Deuxièmement, comment cette jeune fille, si fière soi-même, a-t-elle pu fixer un rendez-vous à un homme qui risquait de lui témoigner du mépris, et qui l'a fait d'ailleurs, dans un lieu public par surcroît, sur le boulevard? Aratov se souvint à ce moment des détails de la scène qui s'était passée sur le boulevard, et se demanda... Mais ai-je réellement témoigné du mépris à Claire ? Non, trancha-t-il. C'était un sentiment de nature différente, un sentiment d'incompréhension et d'étonnement. Bref, de la méfiance. Ô Claire infortunée ! Entendit-il de nouveau résonner dans sa tête. Oui, c'est une malheureuse, fit-il encore. Infortunée, c'est le mot qui convient. Et si elle est ainsi, je dois reconnaître que j'ai été injuste. Elle a eu raison d'observer que je ne comprenais pas. Elle me fait de la peine. Un être comme elle, une femme extraordinaire peut-être, a passé si près de moi. Je n'ai pas su saisir l'occasion. Je l'ai repoussée. Bon, j'ai toujours la vie devant moi. J'ai d'autres possibilités encore, et de plus belles. Qui sait, des rencontres plus merveilleuses. Mais pour quelle raison aurait-elle jeté précisément son dévolu sur moi? Il se regarda dans une glace devant laquelle il passait. Qu'y a-t-il donc de particulier dans ma personne? Je ne suis pas un bel homme, voyons. J'ai un visage comme ça, comme tous les visages. Au fait, oh, elle n'est pas belle non plus. Bah, pas belle, non, mais quel visage expressif en revanche. À la fois immobile et tellement expressif. Je n'avais jamais vu jusqu'ici de visage pareil. Avec ça, elle a du talent. C'est-à-dire qu'elle en a eu. C'est incontestable. Un talent primitif, non cultivé et même brut, si l'on veut. Mais elle en avait, c'est certain. Sur ce point également, je me suis montré injuste envers elle. Arlatov se reposa en pensée à la matinée littéraire et musicale. Il s'aperçut à ce moment qu'il se souvenait avec une grande netteté de chaque parole qu'elle avait dite ou chantée, de chacune des inflexions de sa voix. « Je ne m'en souviendrai pas ainsi, songea-t-il, s'il avait été dépourvu de talent. Et tout cela maintenant repose au fond de la tombe où elle est enfermée, précipitée. Mais j'y suis pour rien, c'est pas de ma faute. Ce serait même ridicule de penser que j'en suis responsable. » Arlatov ne put s'empêcher de songer de nouveau qu'à supposer même qu'il y ait eu quelque chose dans le cas de cette jeune fille, sa conduite au cours de l'entrevue avait dû certainement la décevoir. Oh, mais c'est pourquoi elle a eu ce rire dur et cruel en partant. Mais qu'est-ce qui prouve du reste qu'elle se soit empoisonnée à la suite d'un amour malheureux? Ces journalistes s'efforcent toujours d'attribuer les suicides de ce genre à une passion contrariée. Des personnes comme Claire ayant ce caractère-là finissent facilement par trouver la vie fastidieuse, insupportable. Oui, oui, fastidieuse, que faire avait raison. Elle était tout bonnement lasse de vivre. Mais en dépit de ses succès et des ovations qu'elle recueillait, Montov devint songeur. Il trouvait une sorte de plaisir dans l'analyse psychologique à laquelle il se livrait. Ignorant tout des femmes jusque-là, n'ayant eu aucun contact avec elles, il ne soupçonnait pas même qu'il y avait de révélateur et de significatif dans cette tension de l'esprit visant à pénétrer le secret d'une âme féminine. C'est donc que l'art ne la satisfaisait pas, poursuivit-il en méditant. L'art ne parvenait pas à combler la vide de son existence. Les véritables artistes ne vivent que pour l'art, pour le théâtre. Rien d'autre ne compte pour eux. Tout cède le pas devant ce qu'ils considèrent leur vocation. C'est une dilettante, après tout. Et Arlatov devint un songeur de nouveau. Non, le terme de dilettante ne s'accordait guère avec ce visage, avec cette expression qu'il avait perçue avec ses yeux. L'image de Claire surgit encore une fois devant lui, avec son regard inondé de larmes, avec ses yeux fixés sur lui et les mains serrées contre les lèvres, les mains crispées. Alors, non, ça suffit, murmura-t-il. À quoi bon? Une journée s'écoula ainsi. Au dîner, Arlatov se montra très causeur, questionna Platocha sur les coutumes de jadis, dont celle-ci se souvenait mal d'ailleurs, qu'elle ne savait pas décrire car elle était peu douée pour la parole et n'avait connu pour ainsi dire personne durant son existence en dehors de son petit Yacha. Elle se réjouissait néanmoins de constater qui se montrait si bien disposé et si gentil ce jour-là. Vers le soir, Arlatov devint très calme, à tel point qu'il fit plusieurs parties de cartes avec sa tante. Ainsi passa la journée. Mais pour ce qui est de la nuit... Chapitre 11. La nuit débuta assez bien. Il s'endormit vite et lorsque sa tante rendra sur la pointe des pieds, ainsi qu'elle le faisait chaque soir, pour faire trois fois le signe de croix au-dessus du neveu endormi, elle le vit plonger dans un sommeil paisible et respirant régulièrement comme un enfant. Avant l'aube, toutefois, il fit un rêve. Il rêva qu'il marchait dans une steppe déserte et couverte de pierres, sous un ciel bas. Un sentier surpontait entre les pierres. C'est là qu'il marchait. Soudain, il vit surgir devant lui quelque chose qui avait l'apparence d'un petit nuage très fin. Il examina attentivement, et le nuage se mua en femme vêtue d'une robe blanche, une ceinture claire autour de sa taille. Elle s'éloignait rapidement de lui, paraissant le fuir. Il ne voyait ni son visage, ni ses cheveux, cachés par un long voile. Mais il voulait à tout prix la rejoindre, la regarder dans les yeux. Cependant, il avait beau se hâter, elle s'éloignait toujours, accélérant l'allure. Il aperçut sur le sentier une pierre large et plate, semblable à une dalle funéraire. Celle-ci barrait le passage à la femme qui s'arrêta. Arlatov courut vers elle. Elle se tourna vers lui, mais il ne put voir ses yeux néanmoins, car ils étaient clos. Son visage était blanc, aussi blanc que la neige, et ses bras pendaient inertes. Elle avait l'apparence d'une statue. Lentement, sans réfléchir, sans fléchir un seul de ses membres, elle se renverse et se laisse choir sur la dalle. Et voici qu'Arlatov est couché auprès d'elle, lui aussi étendu de tout son long comme une statue funéraire, avec les bras croisés, ainsi qu'un mort. À ce moment, la femme se relève et s'éloigne. Arlatov veut se lever également, mais il ne peut ni remuer, ni desserrer ses bras, et ses yeux désespérés suivent la femme qui s'éloigne. Soudain, la femme se retourne, et il aperçoit ses yeux clairs et vifs, dans un visage qui lui est étranger, qu'il n'a jamais vu auparavant. Elle rit, elle l'appelle d'un geste de la main, mais il ne parvient toujours pas à bouger de sa place. Il se met à rire encore une fois, puis s'éloigne rapidement, dodelinant joyeusement la tête, sur laquelle brille une couronne de petites roses éclatantes. Arlatov veut crier, il s'efforce de rompre l'effrayant sortilège de ce cauchemar, et tout à coup les ténèbres l'enveloppent, et la femme revient vers lui. Mais ce n'est plus cette fois une statue inconnue, c'est clair qu'il voit devant lui. Les bras croisés, elle s'est arrêtée, et le dévisage d'un air attentif et sévère. Ses lèvres sont serrées, mais Arlatov croit l'entendre prononcer les mots suivants. « Si tu veux savoir qui je suis, rends-toi là-bas. »« Mais où ça ? » demande-t-il. « Là-bas » répond-elle d'une voix gémissante. « Là-bas !» À ce moment, Arlatov se réveilla. Il se souleva sur son lit, alluma la bougie posée sur la table de nuit, il ne quitta pas sa couche, et demeura longtemps assis, glacé d'épouvante, en regardant lentement autour de lui. Il lui semblait qu'un changement s'était opéré en lui depuis la veille, que quelque chose s'était introduit dans son être pendant qu'il dormait, et en avait pris possession. « C'est impossible ! Ça n'arrive pas ! » murmura-t-il à demi inconsciemment. « Existe-t-il réellement une force de ce genre ?» Il ne pouvait plus demeurer couché. Il s'habilla sans faire de bruit et erra jusqu'au matin à travers sa chambre. Si étrange que ce fût, il ne songea pas un instant à Claire. Il ne pensa pas à elle pour la bonne raison qu'il venait de décider de partir dès le lendemain pour Kazan. Il passa son temps à méditer sur ce voyage, sur la façon dont il entreprendrait, sur les effets qu'il emporterait, préparant d'avance des plans pour tout tirer au clair, sur place, pour apprendre la vérité. Après quoi, il se tranquilliserait. « Mais si je ne pars pas, se dit-il, je risque encore de devenir fou. » C'est ce qu'il redoutait d'ailleurs, car il se méfiait de ses nerfs. Il était sûr que dès qu'il verrait tout sur place, les angoisses et les troubles de son âme se dissiperaient, comme s'est évanoui le cauchemar de l'autre nuit. « Oh, ce voyage me prendra pas plus d'une semaine, » songea-t-il. « Et si je reste ici, par contre, je m'en délivrerai jamais. » Le soleil, déjà levé, pénétra dans la chambre, mais la lumière du jour ne chasse pas les ombres nocturnes qui emplissaient son âme et ne fit pas revenir sur sa décision. Plâtre-chat faillit avoir une attaque lorsqu'il lui fit part de sa résolution. Elle s'accroupit même sur le plancher, car elle en eut les jambes fauchées. Mais comment ça, Casarde? Pourquoi ça, Casarde? Murmurait-elle en écarquillant ses yeux, qui ne voyaient plus clair. La surprise n'aurait pas été plus grande si elle avait appris que son Yacha allait épouser la boulangère du coin ou qu'il partait pour l'Amérique. Mais à Kazan, pour longtemps? Oh, je serai de retour dans une semaine, répondit Alatov, tourné de profil vers sa tante, toujours assise sur le plancher. Platonida Ivanovna voulut faire des objections encore, mais Alatov s'emporta contre elle, de façon tout à fait inattendue et inaccoutumée. Mais je ne suis pas un enfant, cria-t-il en devenant tout pâle, tandis que ses lèvres tremblaient et que ses yeux lançaient des éclairs méchants. J'aurai 26 ans bientôt. Je sais ce que je fais. Je suis libre d'agir comme il me plaît. Je ne permettrai à personne. Allez, donnez-moi de l'argent pour le voyage. Préparez ma malle, mon linge et mes vêtements. Et cessez de me tourmenter. Je reviendrai dans une semaine, Platocha, ajouta-t-il d'une voix radoucie. Platocha se releva en geignant et sans plus protester se dirigea dans sa chambre en traînant les pieds. L'attitude de Yacha l'avait effrayé. Mais ce n'est pas une tête que j'ai sur les épaules, disait-elle à la cuisinière qui l'aidait à emballer les effets d'Yacha. Ce n'est pas une tête, mais une ruche. Et Dieu sait quelles abeilles y bourdonnent maintenant. Il part pour Kazan, ma bonne mère, pour Kazan. La cuisinière, qui avait vu la veille le concierge de la maison, conversation prolongée avec le gendarme, avait bien envie d'informer de ce fait de sa maîtresse, mais elle n'osa pas le faire et se borna à songer. Pour Kazan, à moins que ce ne soit pour plus loin encore. Quant à Platonida Ivanovna, elle se sentait à tel point désemparée qu'elle en oublia de dire sa prière habituelle. Il est des malheurs où le Seigneur lui-même ne peut rien. Le jour même, Alatov partit pour Kazan. Chapitre 12. Il était à peine arrivé dans cette ville et installé à l'hôtel qu'il s'occupa de trouver la maison habitée par la veuve Milovidova. Durant le voyage, il avait été plongé dans une sorte de stupeur, ce qui ne l'empêcha nullement, du reste, de prendre les dispositions indispensables, comme de descendre du train à Nizhny Novgorod pour passer sur le bateau, de manger dans les gares, etc. Il demeurait convaincu que tout s'éclaircirait là-bas et chassait pour cette raison de son esprit les souvenirs ou les réflexions qui auraient pu le troubler. Cependant, à préparer, à répéter en pensée le speech, comme il disait, le discours dans lequel il expliquait à la famille de Claire Bilitch le véritable motif de ce voyage. Le voici enfin arrivé au but. La domestique est allée l'annoncer. On l'a introduit dans l'appartement, avec étonnement et crainte, mais on l'y a introduit néanmoins. La maison de la veuve Milovidova était effectivement telle que l'avait décrite Kupfer. Et la veuve ressemblait bien à l'une de ces marchandes décrites par Ostrovski, bien qu'elle appartînt au milieu des fonctionnaires. Son mari avait eu le rang d'un assesseur de collège. Ce n'est point sans effort qu'Alatov, s'étant tout d'abord excusé de son audace et de l'étrangeté de sa démarche, se lança dans le discours préparé d'avance pour expliquer le désir qu'il animait de recueillir toutes les informations accessibles au sujet d'une artiste de talent morte si jeune. Il affirma qu'il était nullement poussé dans ce cas par une curiosité indiscrète et vaine, mais obéissait à la sympathie profonde que lui avait inspiré son talent, dont il fut un admirateur. Oui, oui, c'est le mot qu'il employa, un admirateur. Ce serait un péché, assura-t-il enfin, de laisser ignorer au public l'étendue de la perte qu'il avait faite et pourquoi ses espoirs n'ont pu se réaliser. Madame Milodivnova écouta Aratov sans l'interrompre. Elle ne comprenait pas très bien, il est vrai, ce que lui disait ce visiteur inconnu. Elle ne faisait qu'écarquiller les yeux comme pour mieux l'examiner. Elle lui trouvait cependant un air honnête et paisible. qui s'était mis convenablement, on voyait qu'il ne s'agissait pas d'un individu douteux. Il ne venait certainement pas pour demander de l'argent. « Mais c'est de Katia que vous parlez ? » demanda-t-elle dès qu'Anatole se fit tue. « Oui, d'elle, de votre fille. Et c'est dans ce but que vous êtes venu de Moscou ? » ?»« Oui, de Moscou. Dans ce but uniquement ? » ?»« Dans ce but. » Soudain, Madame Milodivinova a paru s'émouvoir. « Ne seriez-vous pas un écrivain, peut-être ? Vous écrivez dans les journaux ? » ?»« Non, non. » Je ne suis pas écrivain, j'ai rien publié dans les journaux jusqu'ici. La veuve inclina légèrement la tête. Elle paraissait perplexe et surprise. C'est donc, vous venez de votre propre gré ? Demanda-t-elle tout à coup. Anatole chercha une réponse durant quelques instants. Oui, dit-il enfin, je viens par sympathie, par respect pour son talent. Le mot de respect séduisit Madame Milodivona. « Je veux bien, murmura-t-elle en soupirant. Peu beau être sa mère, et j'ai eu un rude chagrin, croyez-moi. Songez quel malheur subit. Je dois le reconnaître toutefois. Elle avait toujours été déraisonnable, et elle a fini comme elle a vécu. Quel opprobre. Demandez-le vous-même, n'est-ce pas affreux pour une mère ? Il faut être heureux encore qu'on l'ait enterrée religieusement. » Madame Milovinova se signa à ce moment. Toute petite déjà, elle refusait constamment d'obéir. Elle a quitté la maison paternelle. Et pour finir, oh, que c'est dur à dire, elle est devenue actrice. Personne ne me contredira. Je ne l'ai pas chassée de chez moi. Je l'aimais malgré tout. J'étais sa mère tout de même. Mais pourquoi a-t-elle préféré vivre chez des étrangers, recevoir leur charité avec ça ? Et la veuve essuya une larme à ces mots. Si vous avez réellement de bonnes intentions, monsieur, reprit-elle en s'essuyant les yeux du bout de son châle, et si vous ne songez pas à jeter le discrédit sur nous, mais voulez au contraire nous être agréable, veuillez alors vous entretenir avec mon autre fille. Elle vous racontera tout mieux que moi. Annette, appela Madame Milodova. Annette, viens ici. C'est un monsieur de Moscou qui désire parler de Katia. On entendit un bruit dans la chambre voisine, mais personne ne répondit à l'appel. Annette, cria la veuve de nouveau. Anastasia Mirovna, viens donc, puisque je t'appelle. La porte s'ouvrit doucement. Et la jeune fille parut sur le seuil. Plus très jeune, d'apparence maladive et pas du tout jolie, elle avait cependant des yeux extrêmement doux et tristes. Anatole se leva, s'avança à sa rencontre et se présenta en se recommandant de son ami Kupfer. « Ah, oh, Fyodor Fedorovitch !» fit la jeune fille à voix basse. Et elle se laissa choir silencieusement sur une chaise. « Voilà, tu vas causer maintenant avec monsieur !» fit Madame Milovinova en se levant lourdement de sa place. « Donne-toi de la peine, car il est venu exprès de Moscou. Il désire recueillir des renseignements sur Katia. Quant à moi, monsieur, ajouta-t-elle en se tournant vers Anatov, vous voudrez bien m'excuser, je dois m'absenter, j'ai des questions domestiques à régler. Avec Annette, vous vous entendrez facilement. » Elle pourra vous parler de théâtre et de toutes ces choses. Ma fille est intelligente et cultivée. Elle sait le français et lit des livres aussi bien que sa sœur défunte. C'est elle d'ailleurs qui l'a élevée, on peut bien le dire. C'était l'aînée. Alors elle s'en est fait un devoir. Madame Milovinova s'éloigna. Demeurée seule avec Anna Semyonova, Aratov lui refit son petit discours. S'étant aperçu toutefois du premier coup d'œil qu'il avait affaire à une jeune fille réellement cultivée, plus qu'il est d'usage chez les négociants, il devint disert et employa des termes plus choisis. Finalement, il se laissa gagner par l'émotion, rougit brusquement, et se rendit compte que son cœur battait à un rythme accéléré. Anna l'avait écouté en silence, les mains jointes. Un triste sourire se dessinait sur son visage pendant ce temps. Ce sourire immobile traduisait une douleur amère que le temps n'avait pas encore atténuée. « Vous avez connu ma sœur ?» demanda-t-elle à Aratov. « Non, c'est-à-dire que je ne l'ai pas connue personnellement, » répondit-il. « Je ne l'ai vue et entendue qu'une seule fois. » Mais quiconque avait vu et entendu votre sœur une fois. Vous désirez écrire sa biographie ? Reprit Anna. Aratov ne s'attendait pas à cette question. Cependant, il répondit aussitôt. Pourquoi pas ? L'essentiel était néanmoins pour lui, ajouta-t-il, de faire connaître au public. À ce moment, Arena l'arrêta d'un geste de la main. À quoi bon ? Le public a déjà été cause pour elle d'assez de malheur. D'ailleurs, Katia n'était qu'au début de sa vie. Mais si vous-même... Et Anna leva ses mots les yeux sur lui et sourit de nouveau avec tristesse, mais d'une façon plus accueillante cette fois. On lui dit qu'elle songeait. Oh, toi, du moins, tu m'inspires confiance. Si vous-même éprouvez une telle sympathie pour elle, veuillez venir nous voir ce soir, après le dîner. En ce moment, il me serait impossible. Comme ça, sans préparation, il faut que je rassemble mes forces. J'essaierai. Oh, je l'aimais trop. Anna se détourna. On la sentait sur le point d'éclater en sanglots. Aratov se leva immédiatement, remercia pour l'invitation, déclara qu'il viendrait certainement, qu'il viendrait absolument. Il partit ensuite, emportant dans son âme les vibrations de cette voix douce, de ses yeux timides et tristes. Une impatience fiévreuse le gagnait. Chapitre 13. Aratov retourna le même jour dans la maison des Milodinov et s'entretint pendant 3 heures d'horloge avec Anna Semyonovna. Madame Milovidova avait l'habitude de se coucher tout de suite après le dîner à 2 heures, et se reposait jusqu'à l'heure du thé, que l'on servait à 19 heures. L'entretien d'Aratov avec la sœur de Claire ne fut pas exactement une conversation. Elle fut presque seule à parler, d'abord avec hésitation, en se troublant, puis avec une sorte de feu, une passion croissante et incoercible. Il était évident qu'elle vouait un culte à sa sœur. La confiance que lui inspirait Aratov se fortifiait. Elle avait cessé de se sentir gênée en sa présence, et à 2 reprises même, elle se mit à pleurer silencieusement devant lui. Il lui paraissait digne de recevoir ses confidences spontanées, d'être témoin des élans de son cœur. Jamais encore dans sa vie solitaire et recluse, pareille chose n'était arrivée. Quant à lui, il buvait littéralement ses paroles. Et voici ce qu'il apprit. Soit directement, soit par les paroles d'Anna, soit indirectement par ses silences, en devinant ce qu'on ne lui disait pas. Dans son enfance, Claire avait été réellement une enfant insupportable. Devenue jeune fille, elle ne témoigna guère d'un caractère plus commode. Volontaire, irascible, pleine d'amour-propre, elle ne s'entendait surtout pas avec son père, qu'elle méprisait pour son ivresse et sa médiocrité. Celui-ci le sentait et il ne lui pardonnait pas. Les dispositions musicales apparurent chez elle de bonne heure, mais son père s'opposa à ce qu'elle les développât. Il ne mettait en fait d'art que la peinture, où il avait si mal réussi, mais qui lui permettait néanmoins d'entretenir sa famille. Pour ce qui est de sa mère, Claire l'aimait, certes, mais en la négligeant, un peu comme on fait d'une nourrice. En revanche, elle adorait sa sœur, bien qu'elle se battît souvent avec elle, allant jusqu'à la mordre, après quoi elle se mettait à genoux, il est vrai, implorant pardon et baisant les chairs mordues. Elle était toute flamme et passion, pleine de contradictions avec cela, vindicative et bonne, généreuse et rancunière. Elle croyait au destin, mais n'avait pas foi en Dieu. Et ces derniers mots, Anna les murmura avec une sorte d'effroi. Attirée vers tout ce qui est beau, elle ne semblait pas se soucier de sa propre beauté et s'habiller au petit bonheur. Elle ne pouvait souffrir qu'on lui fît la cour, mais le relisait dans les romans que les pages ou les questions d'amour. Elle ne cherchait pas à plaire, n'aimait pas les caresses, mais n'oubliait jamais une gentillesse, pas plus qu'une offense d'ailleurs. Elle avait peur de la mort, et s'est suicidée pourtant. Elle disait parfois, « L'homme de mes rêves, oh, je ne le rencontrerai jamais, et pour les autres je m'en moque. Et si tu le rencontrais quand même ?» demandait alors Anna. « Si je le rencontrais, je le prendrais, je le garderais. » Mais il résistait. En ce cas, bien, en ce cas, je me tuerais. Car cela voudrait dire que la vie ne veut pas de moi. Le père de Claire, il lui arrivait dans ces moments d'ivresse de demander à sa femme « De qui donc est ce diablotin noirot ? C'est certainement pas de moi que tu l'as eu. » Qui désirait se débarrasser au plus vite de cette fille. La fiança un jeune homme, fils de riche commerçant, mais stupide, un de ceux qui s'étaient cultivés. 2 semaines avant la date fixée pour le mariage, elle n'avait que 16 ans alors. Elle s'approcha de son fiancé, les bras croisés sur la poitrine, tapotant des doigts contre les coudes, c'est son attitude préférée, et brusquement, d'un puissant élan de son bras détendu, elle lui envoya un soufflet sur sa joue rubiconde. Bondit et de stupeur garda la bouche ouverte. Il faut dire qu'il les met à la folie. Il lui demande « Et pourquoi cette gifle ?» Pour toute réponse, elle éclata de rire et s'en alla. « Je me trouvais présente dans la chambre, » poursuivit Anna, « et je fus témoin de la scène. Et je courus après ma sœur en lui disant « Mais au nom du ciel, Katia, qu'as-tu fait là ?» Et elle m'a répondu simplement « S'il avait été un homme, il m'aurait rossé, mais c'est une poule mouillée. Et il n'ose pas demander encore pourquoi je l'ai giflé. Puisqu'il m'aime et ne s'est pas vengé, qu'il souffre en silence et ne demande pas pourquoi, il n'y aura rien de moi, mais rien pour l'éternité. » Et c'est ainsi qu'elle rompit ses fiançailles et refusa de se marier. Elle ne tarda pas à faire la connaissance de cette actrice et s'enfuit de la maison. La maman en a pleuré, mais le père se borna à observer. La brebis galeuse a été éloignée du troupeau et ne voulut même pas faire des recherches pour la retrouver. Il ne comprenait pas Claire. Et pour ce qui est de moi, ajouta Anna, elle faillit m'étouffer le baiser la veille de sa fuite, ne faisant que répéter « Je ne puis agir autrement. Mon cœur se brise, mais il le faut. » La cage est trop petite, trop étroite pour mes ailes. D'ailleurs, on n'échappe pas à son destin, et je ne l'ai revu que rarement depuis alors, observa Anna. Quand notre père est mort, elle est venue ici pour 2 jours, a refusé sa part de l'héritage et a disparu de nouveau. L'existence lui pesait chez nous, je l'ai remarqué. Par la suite, elle est revenue à Kazan en qualité d'actrice déjà. À râteau, Roff se mit à questionner Anna sur la vie théâtrale de sa sœur, sur les rôles qu'elle jouait, sur ses succès. La jeune fille répondait en donnant de nombreux détails, mais toujours avec la même passion amère, douloureuse, bien qu'elle se fût animée en parlant. Elle alla jusqu'à montrer à Aratov une photographie représentant Claire dans l'un des rôles qu'elle joua sur sa scène. Elle y apparaissait, regardant de côté, comme si elle se détournait du public. Sa lourde tresse, nouée d'un ruban, retombait en ondulant sur son bras nu. Aratov examina longuement la photographie, lui trouva de la ressemblance, sans qui, si Claire avait participé à des récits publics, et reçu une réponse négative. Elle avait besoin, paraît-il, de l'excitation de la scène, de l'ambiance du théâtre. Cependant, une autre question brûlait les lèvres d'Aratov. Anna Semyonovna, s'écria-t-il soudain d'une voix assourdie, mais forte. Dites-moi, je vous en supplie, expliquez-moi pourquoi elle s'est décidée à cet acte horrible. Anna baissa les yeux. Je l'ignore, fit-elle au bout de quelques instants. Je vous assure que je l'ignore, reprit-elle précipitamment en voyant qu'Aratov faisait de la main un grand geste incrédule. Depuis le premier jour de son arrivée dans notre ville, elle se montra effectivement pensive et maussade. Il est probablement arrivé à Moscou quelque chose que je ne suis pas parvenu à découvrir. En revanche, le jour fatal, elle me parut, sinon plus gaie, en tout cas plus calme qu'à l'ordinaire. Je n'ai pas eu le moindre soupçon, ajouta Anna avec un sourire amer, comme pour se faire des reproches à elle-même. Voyez-vous, reprit-elle au bout d'un instant, Katia était née, semble-t-il, pour un destin malheureux. Elle en était convaincue elle-même, dès son plus jeune âge. Elle arrivait ainsi de s'accouder, pensive, et de dire « Oh, je n'ai pas longtemps à vivre. » Elle avait des pressentiments. Imaginez-vous qu'elle savait d'avance ce qui lui arriverait, et en parlait, tantôt dans son sommeil, et tantôt à l'état de veille. « Du moment que je ne puis vivre selon mes rêves, je préfère mourir. » Ses mots revenaient souvent sur ses lèvres. Et elle disait encore « Nous sommes maîtres de notre vie. » Et elle l'a bien prouvé. Anna se couvrit le visage des mains et se tut. « Anna Semyonovna, fit Arlatov après un silence, vous savez, je suppose, à quel motif les journaux ont attribué oui, un amour malheureux. » L'interrompit Anna en éloignant brusquement les mains de son visage. « Mais c'est une calomnie, une invention abominable. Pas pure Katia, si fière, si inaccessible. Katia, un amour malheureux, un amour dédaigné, elle. Et je ne le saurais pas, moi. Mais tous les hommes tombaient amoureux d'elle. Mais elle, oh, et qui donc aurait-elle pu aimer ici ? Qui parmi tous ces gens pouvait paraître digne d'elle? Qui se serait élevé à cet idéal de droiture, de sincérité, de pureté, oui, de pureté surtout, de cette pureté qu'en dépit de tous ses défauts, elle possède par-dessus tout? La repousser, elle, oh, elle! La voix d'Anna se brisa. Ses doigts se mirent à trembler. Son visage s'empourpra soudain, exprimant l'indignation, et dans ce moment elle parut, mais pour un instant seulement, ressembler à sa sœur. Arlatov tenta de s'excuser. « Écoutez-moi, l'interrompit Anna de nouveau, je veux absolument que vous refusiez de croire à cette calomnie et que vous en démontriez la fausseté, si possible. Vous avez l'intention, n'est-il pas vrai, d'écrire un article sur elle ? Eh bien, vous aurez là l'occasion de défendre sa mémoire. C'est pourquoi je vous parle si ouvertement. Écoutez, Katia a laissé un journal. » Arlatov tressaillit. Un journal ? Murmura-t-il. Oui, un journal. Oh, il ne s'agit que de quelques pages de cahier, d'ailleurs. Katia n'aimait pas écrire. Il lui arrivait de passer des mois sans noter quoi que ce fût. Ses lettres aussi étaient si brèves. Mais elle ne disait jamais que la vérité. Elle ne mentait pas. Peut-on mentir d'ailleurs avec un amour propre comme le sien? Je vous montrerai ce journal. Vous verrez par vous-même qu'il contient la moindre allusion à un amour malheureux. Anna sortit hâtivement du tiroir de la table un mince cahier d'une dizaine de pages ou plus qu'elle tendit à Arlatov. Celui-ci le saisit avidement et reconnut sur le champ l'écriture large et irrégulière, celle du billet anonyme. Il ouvrit le cahier au hasard et tomba du premier coup sur les lignes suivantes. « Moscou, mardi, juin. J'ai récité, j'ai chanté à une matinée littéraire. Oh, ce jour-là sera décisif dans ma vie. Il tranchera mon destin. » Ces mots étaient soulignés deux fois. J'ai de nouveau aperçu, et venaient ensuite quelques lignes qui avaient été biffées après coup de toute façon qu'on ne put pas les déchiffrer. Et elle disait ensuite, « Non, non et non, il faut reprendre mes occupations passées, à moins que... » Arlatov laissa retomber le bras qui tenait le cahier et sa tête s'inclina lentement sur sa poitrine. « Mais lisez donc, s'écria Anna. Pourquoi lisez-vous pas? Commencez par la première page. Cette lecture ne vous prendra pas plus de 5 minutes, bien que le journal s'étende sur 2 années pleines. La caserne n'a plus rien écrit. Malatoff se leva lentement de sa chaise et tomba brusquement à genoux devant Anna. Là, je le vis, il demeura stupide d'étonnement et d'effroi. Donnez-moi ce journal, fit Malatoff d'une voix mourante, en tendant les deux bras vers Anna. Donnez-le-moi. Et la photographie aussi. Vous en avez une autre, certainement. Votre journal, je vous le rendrai. Il me le faut, j'en ai besoin. Il y avait dans sa prière, dans les traits décomposés de son visage, quelque chose de tellement désespéré qu'il donnait une impression d'exaspération hostile et de douleur. Il souffrait réellement, d'ailleurs. Il était comme un homme subitement frappé par un malheur qu'il n'aurait pu prévoir, et suppliant, avec une sorte d'irritation, qu'on le ménageât, qu'on le sauvât. « Donnez !» répéta-t-il. « Mais vous étiez donc amoureux de ma sœur ?» fit enfin Anna. Malatoff était toujours à genoux. « Oh, je ne l'ai vu que 2 fois en tout. Croyez-moi, si j'étais poussé par des raisons que je n'arrive pas à comprendre moi-même, ni à expliquer convenablement, si je me sentais mu par une force qui s'est emparée de moi et qui est plus puissante que moi, je ne vous supplierais pas ainsi. Je ne serais pas venu jusqu'ici. Il me faut, je dois. N'avez-vous pas dit vous-même que mon devoir est de donner au public l'image véritable de ce qu'elle fut? Vous n'étiez donc pas amoureux de ma sœur? Demanda Anna pour la seconde fois. Malatoff ne répondit pas sur le champ et se détourna légèrement comme pour dominer sa douleur. Eh bien oui, je l'étais. J'en étais amoureux. Je l'aime encore maintenant, lance-t-il avec le même désespoir dans la voix. On entendit à ce moment des pas dans la chambre voisine. Oh, levez-vous, je vous en prie, murmura précipitamment Anna. C'est ma mère qui vient. Malatoff se leva. Prenez le journal et la photographie, puisque vous y tenez tant. Pauvre Katia. Mais vous prendrez le journal, se reprit-elle vivement. Et si vous publiez quelque chose sur elle, vous me l'enverrez absolument, entendez-vous? L'apparition de Madame Bilopidova dispensa à Malatoff de l'obligation de répondre. Il y eut néanmoins le temps de chuchoter. Vous êtes un ange, merci. Je vous enverrai tout ce que je publierai sur elle. Madame Bilopidova, qui venait seulement de se réveiller, et dont l'esprit était encore engourdi, ne s'aperçut de rien. Malatoff partit donc de Kazan avec la photographie de Claire dans la poche du côté de son veston. Pour ce qui est du cahier du journal, il le restitua à Anna, mais non sans avoir détaché assez habilement pour que la jeune fille ne le marquât pas, la page qui portait les mots soulignés. Durant le trajet de retour à Moscou, il tomba de nouveau dans une sorte de stupeur. Encore qu'il se réjouit secrètement d'avoir atteint le but pour lequel il avait entrepris ce voyage, il renvoya toutes les réflexions sur Claire jusqu'au moment où il serait rentré chez lui. Il pensait davantage en réalité à sa sœur Anna. Voilà, songeait-il, un être admirable et vraiment digne de sympathie. Comme elle sait tout comprendre avec finesse, et quel cœur aimant, quelle absence totale d'égoïsme. Dire qu'il y a chez nous en province, et dans quel milieu encore, des jeunes filles de cette qualité dont l'âme s'épanouit en secret. Certes, les maladies va assez laides et plus très jeunes, mais quelle merveilleuse compagne elle ferait pour un homme convenable et cultivé. C'est d'elle qu'il y reviendrait d'être amoureux. Ainsi méditait Malatoff. Mais à son arrivée à Moscou, l'affaire prit une tournure bien différente.